Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, avec ce matin Christophe Cessieux, Denis Charvet, Fred Weiss, Pascal Duprat. Si vous avez raté nos précédents débats, vous pourrez tranquillement cet après-midi nous écouter en podcast. On a évoqué la situation d'Hugo Radou et Oscar Jégou. Doit-il revenir en bleu? Nous avons parlé également de la Coupe du Monde. Est-ce qu'elle est toujours aussi magique, la Coupe du Monde de foot, ou encore de Victor Wembanyama? N'hésitez pas donc à aller nous réécouter. Nous avons fait un carton en novembre, très proche de notre record. Donc merci infiniment de votre fidélité. Dans quelques instants, la sensation Brest en Ligue des Champions. Les Brestois doivent-ils aller jouer désormais au Stade de France pour les matchs à élimination directe, oui ou non? Les GG ne sont pas d'accord. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre d'un sujet. Mais de quel sujet? Est-ce que vous avez une idée, Christophe? Une petite idée?
J'ai deux idées, moi.
Ah, vas-y.
Deux pour le prix d'une. Un premier débat, foot, il y a des matchs importants qui vont avoir lieu, et notamment cet après-midi, OM Lille. Et on pourrait poser la question, Pep Genesio, puisque c'est son surnom, est-il tout simplement le meilleur entraîneur de Ligue 1?
Très bonne idée de débat caché. Et la deuxième?
La deuxième, c'est faut-il dégager les politiques du dossier Alpes 2030?
Ok, un débat polémique.
Un débat polémique.
Ok, ouais. J'aime bien ça.
Ouais, t'aimes bien?
Ouais, bonne proposition, Christophe. Denis Charvet.
Aucune idée.
Aucune idée du débat caché?
Golf, sujet golf avec le retour de Tiger Woods.
Ouais, c'est vrai, on a appris ça.
Le mec, il a bossé.
Il veut revenir.
Oui.
Bravo, mon cher Denis. Tiger Woods.
Il veut revenir.
Je l'avais noté, puis je me suis dit, je vais pas leur faire ça quand même. Je vais pas leur faire ça. Pas de débat basket, s'il te plaît, on en a déjà parlé dans cette émission. Fred,
deux fois, donc non, j'arrête. Neymar, est-ce qu'il va être capable de faire une quatrième Coupe du Monde?
Ah non, c'est demain ça.
C'est demain. Neymar, une interview exceptionnelle dans Bartoli Time avec Marion Bartoli, Benoît Boutron à partir de 19h30. Demain, c'est la sensation, c'est le scoop de l'année. Neymar est sur RMC. On en parlera demain, mais j'aime bien cette proposition aussi, ça me permet de teaser. Pascal Duprat.
Oui, ça, pour montrer que en fait, je suis pas rancunier, j'aimerais faire briller mon ami Christophe et j'aimerais qu'on parle de Patrick Lefebvre, qui a annoncé qu'il quittait Soudal Quickstep. Donc, comme c'est un passionné de cyclisme, Christophe, je me languirais de l'écouter. Voilà.
tu veux le faire briller, ça c'est beau.
Oui, je veux le faire briller. Ouais, et je montre que je ne suis pas rancunier parce qu'il me déverse son fiel depuis ce matin.
C'est vrai. Mais Pascal, par contre, ça ne sera pas ça.
Mais non, mais peut-être demain, parce que demain, on aura Jérôme Pinault comme grande gueule coureur.
Mais
qui a été
ça coureur, me plairait d'avoir ton avis sur le personnage controversé.
Ah, très controversé,
oui. Ok, les copains, merci pour vos propositions. Ce sera à 11h30. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Robert Ollier, qui a dit un jour, le bonheur est toujours ailleurs.
RMC,
les grandes gueules du sport passent la seconde.
Notre nouvelle maison.
La victoire du Stade Brestois, l'explosion de Roudourou ici, la première victoire des Brestois en Coupe d'Europe.
Ça t'arrive de rêver?
Au 4, quatrième but pour le Stade Brestois, 4-0 en Ligue des Champions.
C'est toi-même qui disais que tu voulais t'enflammer instantanément.
La tête, le but, le voilà, le but, c'est le cardinal, me semble-t-il, au deuxième poteau. Brest, c'est toujours magique en Champions League.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Les grands bonhommes de la soirée, le Stade Brestois qui s'impose 1-0 face à Eindhoven. Merci messieurs, merci Julien le cardinal, buteur aujourd'hui. Brest continue à surfer sur la Coupe d'Europe.
Jamais personne ne pourra m'interdire de rêver. Et peut-être qu'un jour, mon rêve deviendra vrai.
Oh oui, merci Brest. L'exceptionnelle épopée brestoise va se poursuivre en février. Cette semaine, les Bretons, vous l'avez entendu, ont assuré leur qualification à minima pour les barrages de la Ligue des Champions après leur victoire 1-0 face au PSV Eindhoven. Une quatrième victoire en 6 matchs à 2 journées de la fin. Une question se pose désormais. Les Brestois vont-ils encore changer de stade? Après le Roudourou, l'hypothèse de Stade de France prend de l'épaisseur. Selon le journal L'Équipe, les dirigeants bretons aurait contacté l'enceinte de Saint-Denis. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Brest doit-il aller au Stade de France? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Je suis pas vraiment pour.
Plutôt non. Pascal Duprat.
Oui.
Fred Weiss.
Non.
Denis Charvet.
Non.
Pascal est tout seul sur ce débat. Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant en Bretagne, Xavier Grimaud. Bonjour Xavier.
Salut les GG, salut à tous.
Alors, c'est une question qui fait débat dans les GG, vous n'êtes pas toutes d'accord, mais c'est aussi une question qui fait débat au sein du club.
Oui, et pour schématiser, on peut dire qu'il y a deux courants au sein du club, un courant institutionnel, à savoir la direction du club brestois, qui se laisserait volontiers tenter par le Stade de France, et puis de l'autre côté, un courant sportif qui est plus réticent, ou du moins plus mesuré. Alors ce rêve d'imaginer un Stade de France rempli de 70 000, 80 000 brestois, il a été mis sur la table il y a quelques mois par le président Denis Lessin, qui parlait de Paris comme la première ville bretonne de France. Son frère et co-président Gérard Lessin assurant lui que le club n'aurait pas de mal à remplir le stade. Alors concrètement, le Stade brestois, il a bien commencé à se renseigner sur les modalités, le prix notamment à débourser, qui serait, nous dit-on, pas si cher que ça à l'échelle de la capacité, de la notoriété de l'enceinte, mais pour le rentabiliser, il faut le remplir. Donc il faut un adversaire prestigieux, ce qui amène un premier problème, c'est que le tirage au sort, il est programmé le 31 janvier. Ça veut dire que le premier match, il sera au pire moins de deux semaines plus tard même, et au mieux 19 jours plus tard, le tirage au sort. Donc ça fait court, évidemment, comme timing pour remplir. Et autre point de règlement déterminant, le stade ne peut plus bouger selon les règles de l'UEFA à partir des barrages. Comprenez que si l'aventure se poursuit, et avec Brest tout est possible, il devrait continuer éventuellement en 8e au Stade de France et plus loin, soyons fous. L'idée derrière ce rêve, c'est évidemment de faire de ce barrage une fête exceptionnelle, et c'est là que le sportif intervient, parce que ce soit les Brestois, Eric Roy, le directeur sportif Lorenzi, ou les joueurs, ils pensent avant tout à la compétition, et tous se sentent bien où ils sont, à savoir au Roudourou qui leur réussit, et le coach a fait comprendre que il voulait qu'on touche le moins possible à cette dynamique de groupe. Et Lorenzi, d'ailleurs, après la victoire à Eindhoven, il a été assez clair. Ici, à Guingamp, ça se passe bien. L'équipe a trouvé ses marques. C'est un vrai chaudron, un vrai cocon, en affirmant que le Stade de France n'était pas d'actualité. Donc, il y aura débat au sein du club et le sportif pesera évidemment beaucoup. L'option la plus probable, ça reste donc de continuer au Roudourou. Il y a des aménagements à faire, mais ils ne sont pas impossibles. Il faudrait encore diminuer la capacité d'accueil de peut-être de 1000 places, descendant la jauge à 14 000 supporters. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais Brest a déjà investi 1 million d'euros au minimum dans le Roudourou pour jouer la Ligue des Champions. L'autre option, peut-être celle du consensus, c'est le Roazhon Park, qui a l'avantage de doubler la jauge avec 27-28 000 places. Il se remplirait en quelques minutes, ça fait aucun doute. Des aménagements sont aussi à prévoir, 200 000 euros au moins, plus l'allocation du stade. Pour finir, qu'est-ce qu'en pensent les supporters? Franchement, ceux qui s'expriment, ils sont plutôt mitigés et ils penchent plutôt pour Guingamp ou pour Rennes. Rester en Bretagne à 2h30 de route, ça vaut mieux qu'aller faire 1200 km aller-retour pour aller à Saint-Denis.
Merci beaucoup Xavier Grimaud, tu restes avec nous pour ce débat, toi qui as des informations évidemment. Brest doit-il aller au Stade de France? Supporters brestois, supporters bretons, on vous attend au 32-16. Avez-vous envie d'être délocalisé à Paris, à Saint-Denis précisément, pour un éventuel barrage, voire pour poursuivre la compétition, le 8e, le quart? On peut rêver maintenant avec Brest, on vous attend évidemment au 32-16. Pourquoi non Christophe?
Parce que moi ce Stade de France, c'est le stade des équipes de France, le stade des finales quoi, finale de Coupe de France, finale du championnat de rugby, pour qu'il donne vraiment la pleine mesure de son bruit et de l'ambiance, il faut qu'il soit plein. Alors Xavier nous dit que ça pourrait remplir 80 000 personnes qui font 1200 bornes pour aller voir un match.
Oh, mais il y a aussi
tous les Bretons de Paris.
Ok, mais
donc tous les Bretons de France.
Donc alors Paris. 160 000 Bretons donc dans le Stade de France. Il faut savoir que Xavier disait tout à l'heure, c'est pas très cher. Moi j'ai lu quand même Xav que c'était entre 400 et 800 000 euros pour la location du Stade de France à la soirée. Il faut savoir par exemple que l'équipe de France de rugby lors du match entre la France et le Japon n'avait rempli qu'à un peu plus de 50 000. Mais bon, il y a beaucoup plus de Japonais, il y a beaucoup plus de Bretons que de Japonais en France. Vous l'avez bien fait comprendre, mais à 50 000 tu perds beaucoup d'argent.
Et pour ça que je te disais Christophe, ouais. 60, il faut remplir à 70 000 minimum, c'est pas cher pour minimum, ce que c'est, on va dire. D'accord. Les Brestois s'attendaient à beaucoup plus cher que ça vu l'enceinte exceptionnelle qu'est le Stade de France.
D'accord.
Donc, il faut le remplir au moins à 70 000.
À 70 000 tu commences à gagner un peu de sous, voilà. Mais bon,
t'es obligé de rester jusqu'à la fin
ouais, t'es obligé de rester dans le même stade, Alors évidemment si le tirage leur donne le Real, Liverpool,
Que Xavier, le premier match, on aura l'affiche que 15 jours avant, c'est ça.
Exactement.
Donc c'est un vrai problème quand même.
Parce que ça sera pas une affiche dégueulasse,
si
quoi qu'il arrive.
Storm Grâce.
Mais t'en sais rien.
Mais non, mais Pascal. Mais bien sûr, puisqu'on a combien de clubs, Pascal,
tu peux très bien avoir Stuttgart qui vient jouer au Stade de France, tu vois, ou je sais pas, mais.
Tu penses que les Bretons, ils vont faire la distance?
Je pense que le Stade de France, pour Brest et pour l'événement, eh bien, tu le remplis.
Non, mais tu remplis, voilà. C'est une chose. Moi, après, voilà. Je pense que la réponse, elle est dans la réponse du débat, elle est dans la réponse des joueurs. Les gens n'ont pas vignalé parce qu'ils ont envie de continuer l'aventure. Ils se disent, attends. Et moi, je pense que le Stade de France,
ça peut t'inhiber quand tu joues contre des équipes qui ont l'expérience de jouer dans des grands stades comme ça.
Mais Madrid, tu joues Madrid ou tu joues à l'extérieur, tous les dimanches ils sont 80 000 personnes. Brest, ils jouent jamais.
La qualité de l'équipe de Brest.
Mais non, mais oui, d'accord, sauf que les gens ils veulent jouer ou à Guingamp ou à Rennes. Donc
Pascal, j'ai une question pour toi notamment.
Xavier veut interpeller Pascal.
Toi, Pascal, l'entraîneur, qu'est-ce que tu penses d'Éric Roy qui veut justement qu'on touche le moins possible à la dynamique de groupe? Ça doit te parler, j'imagine, pour avoir une performance maximale.
Non, mais j'entends ce qu'Éric dit, mais il y a quand même un point du règlement, c'est qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, les dirigeants brestois ne peuvent pas jouer au Roudourou s'ils ne font pas des travaux.
Oui, mais c'est
pas des petits travaux. Mais non, ils vont
des petits travaux, en fait.
Ça, c'est quand même à prendre en considération. Et la deuxième chose, c'est que je suis d'accord pour ce qui est du sportif. Mais 14 000 personnes, c'est le bout du monde au Roudourou. Pour la Ligue des Champions et pour les barrages. Non, mais 14 000 Bretons, et il y en a plus que ça qui voudraient venir voir ce match-là.
Ça dépend,
et d'être à Paris. Laissez-moi terminer. Bah justement, pour Pascal. Moi, c'est et économique et sportif. Voilà. Parce que je suis certain que soutenu par 80 000 personnes au Stade de France, cette équipe de Gaulois, là, elle est pas facile à manier. Et leur coach, c'est un génie. Moi, et je dis que s'il y a 80 000 personnes derrière eux, eh bien, ça peut être toute autre chose qu'une fête.
Oui, mais
voilà ce que je défends. Et la deuxième argument, c'est que de partout en France, tu converges en une heure ou trois heures ou quatre heures en train pour aller à Paris. Mais moi, je veux vous dire, même moi, j'ai envie d'aller voir le Brest jouer. Donc je préfère aller à Paris plutôt que d'aller au Roudourou parce que 14 000 places, peut-être que j'en aurais pas.
T'as toujours dédaigné la province, c'est ça ton problème.
C'est ça, sûrement.
En plus,
sûrement,
Pascal, oui.
Sûrement.
Oui.
Non, mais en plus,
sûrement, oui.
Je comprends. Ah, les lumières de la grande ville, ça te plaît,
Pascal. Il y a un truc qui m'interpelle parce que.
Denis Charvet.
Pascal, toi qui étais entraîneur, quand même, t'as bien vu les résultats qu'ils ont fait au Roudourou. C'est significatif quand même.
Bien sûr.
L'idée d'un traquenard au Roudourou est plus possible au Stade de France.
Mais en fait, tu ne mets pas dans le meilleur des contextes possibles. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas jouer sur terrain neutre. C'est quoi l'intérêt? Alors oui, Pascal va me dire,
ils sont déjà sur terrain neutre.
Mais non, c'est pas l'antagonisme.
J'ai joué à Brest. L'antagonisme qu'il y a entre Brest et Guingamp, tu peux pas t'imaginer.
Pascal, tu sais comment ça se passe quand tu as pris tes habitudes dans un stade. Si tu as joué 3-4 matchs, tu connais un peu. Tu sais comment ça se passe. Tu sais, tu l'as appréhendé. Le Stade de France, pour l'appréhender, c'est un truc monstrueux. Donc je pense qu'au contraire, aller jouer au Stade de France, c'est se mettre une pression qui n'est pas nécessaire, et la pression qu'on met sur les adversaires est bien moindre.
Tu sous-estimes leur talent.
Non, c'est pas le talent.
En fait, c'est pas une question de talent. Non. On peut être inhibé, c'est comme ça.
Bien sûr, c'est la pression.
80 000 Bretons derrière leur équipe, mais ils jouent pas les 80 000, c'est les joueurs, le coach ne veut pas y aller, le sportif ne veut pas y aller parce qu'ils sont pragmatiques dans un endroit et ça ils peuvent gagner et ben voilà qu'ils n'y aillent pas exactement.
Il n'empêche que je te donne mon avis, je suis pas partie prenante parce que je suis pas leur coach, mais quand bien même si j'étais leur coach, je sais pas si ça me titillerait pas d'aller jouer au Stade de France quand tu connais le contexte, quand tu connais ce qu'ils font depuis le début de la compétition. Tu te dis pourquoi pas galvanisé par 80 000 personnes
et puis aussi pour redorer
le blason et pour aussi faire en sorte que certains commentateurs disent que le rugby supplante le foot parce que sous prétexte qu'il y a de l'ambiance au Stade de France. Allons-y pour montrer que le football est populaire.
Pascal, lâche pas la grenade comme ça, si tu fais exprès avec Christophe et Denis.
mec qui dédaigne la province comme ça, c'est quand même d'entendre ce genre de discours.
Il y a un tableau rugby.
Il y a Manu.
Ça, parce que aller au Roudourou, ça marcher dans la boue, ça te plairait pas, ça, Pascal. Ah, non, c'est pas ton truc. Hein.
C'est évidemment pas les arguments.
Tu ne trompes personne, tu me démontes depuis ce matin, tu ne fais que ça. Qu'est-ce que je t'ai fait?
Jean-Michel Larquet qui nous écoute, qui me dit que la location du stade aurait été proposée au président de Brest pour 90 000 euros. Ça m'étonne, parce que moi j'avais lu entre 400 et 800 000 et il récupérait 25% de la recette.
Alors sachez que Brest a d'ores et déjà gagné 27 millions d'euros grâce à son parcours en Ligue des Champions. Non mais c'est déjà extraordinaire pour Brest.
Donc c'est grave, même entraîneur niçois,
même payer 200 ou 300 000 euros pour une location. Après c'est sur le plan sportif, évidemment c'est toute la question. Est-ce que c'est bénéfique pour eux? Manu nous appelle justement au 32-16, supporter de Brest. Bonjour Manu.
Bonjour JC, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Manu. Bonjour, Manu. Bon alors on a envie d'avoir le sentiment, le pouls des supporters bretons.
Alors le pouls, moi je l'ai. Je vais aller point par point, ça va être rapide, clair et concis. Donc déjà, Pascal Duprat, quand j'étais petit, je l'ai vu jouer au Stade Brestois, je ne comprends pas sa position. Moi, je vais à Guingamp voir les matchs, j'en ai vu trois, et celui d'avant-hier, enfin d'il y a trois jours, je ne vous dis pas quel plaisir j'ai pris. Il y avait une intensité que je n'ai jamais vue sur un terrain de foot pour le Stade Brestois, c'était un match extraordinaire. Plus on monte crescendo, plus l'intensité y est, et pour avoir vu le PSV Eindhoven, je suis en bord pelouse, c'était extraordinaire. Mais il faut savoir que ça nous embête quand même un petit peu d'aller à Guingamp parce qu'on n'est pas dans notre stade où je vais aller demain soir les voir jouer contre Nantes. Donc déjà, on a cette première problématique, on ne joue pas dans notre stade. Mais on s'est quand même un petit peu approprié le stade du Roudourou depuis le mois de septembre. Donc moi, je pense que cette idée d'aller au Stade de France, c'est une fausse bonne idée parce que les Bretons ne vont pas supporter Brest. Moi, je ne supporte pas Nantes, je ne supporte pas Guingamp, ni Rennes, ni Lorient. Je supporte le stade Brestois. Brest, c'est 150 000 habitants, 300 000 avec la couronne. Vous croyez qu'il va y avoir 80 000 personnes qui vont supporter Brest? C'est pas une finale de Coupe de France, c'est une mauvaise idée. Tous les joueurs, Bandan l'a encore dit hier, dans vos émissions, veulent rester jouer au Roudourou. C'est un petit stade qu'on s'est approprié, qui est un peu dans la même configuration que le stade brestois, un stade un peu à l'ancienne, à l'anglaise, là, comme on appelle ça. Donc, on veut rester jouer là, et il n'y a aucun intérêt à aller au Stade de France. Moi, je serais prêt à faire l'effort d'aller jusqu'à Rennes, depuis Brest, 2h30.
Mais 240 bornes. Ouais.
Non, mais ouais, est-ce que tu penses au nombre de Brestois? S'il y a 14 000 personnes qui vont au Roudourou,
oui,
comme
mais
tu as dit,
s'il
y a une forte densité à Brest, mais oui. Tu ne permets qu'à 14 000 personnes de venir suivre les exploits grandissants de l'équipe. À Paris, il y a de la place. Et tu ne veux pas me dire qu'il n'y a pas des Brestois et des supporters Brestois dans la couronne parisienne. Il y en a beaucoup.
Non, je ne pense pas. Je pense que tu te trompes, Pascal. Je pense qu'il y a des supporters Bretons.
On lui dit ça toutes les semaines, mais il ne croit pas.
Face à toi, j'accepte à la limite de me tromper, mais je voudrais tellement faire la nique au foot aussi.
Mais
au foot.
Déjà, on vit une épopée extraordinaire cette année.
Hein, exceptionnelle.
Malgré les blessés, malgré le championnat où on paye un petit peu les conséquences. Mais là, laissez-nous vivre notre épopée à Guingamp. Dans ce stade, par procuration, c'est approprié. Franchement, Pascal, il n'y a pas beaucoup de places, malheureusement, il n'y a que 15 000 places en vente, mais tu serais venu il y a trois jours, je n'ai jamais
sûrement.
Vu ça.
Non, mais il va qu'au Stade de France, Pascal.
Est-ce que je peux rajouter un argument?
Un argument.
Ça permettrait aussi aux supporters du PSG de voir du foot.
Oui, c'est pas faux. Là, je te l'acquiesce.
Bravo. Bel argument, belle punchline. Et encore une grenade de lancer. Bravo, mon cher Pascal. Merci, Manu, d'avoir été avec nous. C'était très clair et c'était brillant. Et sachez, je vous rappelle que Brest, pour l'instant, après 6 journées, est 7e de la Ligue des Champions. Donc, pour l'instant, dans les 8 premiers, si on est dans les 8 premiers, c'est direction les 8e de finale. Il n'y aura pas de barrage au-delà, derrière les 8 premiers. Là, en revanche, c'est plus compliqué.
8e, ça veut dire que tu as un adversaire encore d'un plus haut standing.
Pour les 8e de finale. Là, on parle déjà pour les barrages et les 16e. S'ils ne sont pas dans les 8 premiers, sachez que le 22 janvier, c'est la 7e journée de cette Ligue des Champions. Ce sera face au Shakhtar Donetsk. Donc Shakhtar Donetsk face à Brest. Et dernière journée, 29 janvier. Là, on a envie d'y être. Hein. Brest, Real Madrid. Ce sera la dernière journée au Roudourou. Ligue des Champions. Et là, ce ne sera pas au Stade de France. Hein. Ce sera encore les phases de poule de la Ligue des Champions. Merci Manu d'avoir été avec nous. Et évidemment, allez Brest. Allez. Et bravo aux hommes d'Éric Roy pour ces belles sensations depuis le début de cette Ligue des Champions. C'est l'heure du jeu de Noël, les copains.
Le grand Noël RMC.
Ah, je suis très heureux dans cette émission d'accueillir Cécilia. Bonjour, Cécilia.
Et bonjour.
Bonjour.
Cécilia,
bonjour.
Tu viens de remporter le grand jeu de Noël. On ne connaît pas encore ton cadeau. Alors sache qu'à mes côtés, c'est très simple. J'ai un sapin de Noël avec des boules à l'effigie des grandes gueules du sport. Alors il y a la boule Pascal Duprat, j'y suis aussi. Il y a Denis Charvet, il y a Fred Weiss et il y a Christophe Cessieux. Tu choisis, c'est du hasard évidemment, tu choisis quelle boule, chère Cécilia?
Alors je choisis la vôtre, Jean-Christophe
Drouet. Oh, c'est gentil. Il faut me tutoyer évidemment, hein, Cécilia. Merci Cécilia. Alors je vais l'ouvrir. J'espère sincèrement. Franchement, je suis pour rien.
La plus belle, franchement. Hein.
J'espère Cécilia qu'il y a un énorme cadeau pour
j'espère
toi.
J'espère aussi d'avoir fait le bon choix.
Parce que là vraiment, je m'en voudrais. Tu voudrais quoi? Tu voudrais gagner quoi?
Peu importe. Déjà, je suis très contente d'être à l'antenne avec vous.
Ah bah écoute, c'est très gentil. Est-ce que tu as des enfants dans la famille? Ça peut servir pour les gâter. Non, pas forcément.
Non. Pas d'enfants.
Bon.
Des frères, on l'espère.
Ah, ok.
Tous les parents, bien évidemment.
Ok. Alors, je t'annonce ton cadeau. C'est un très beau cadeau. Tu viens de remporter une PS5 Pro de Micromania Zing. La toute dernière, une PS5. Bravo, chère Cécilia.
Bravo.
Eh bien, super, je suis très contente. Ça fera bien plaisir. Merci beaucoup.
Bravo, Cécilia, d'avoir participé
dans ma boule,
au
jeu. Il y avait un voyage pour 4 personnes aux Maldives.
Alors, Cécilia, moi, je suis très heureux parce qu'une PS5, c'est pour ça que je te demandais aussi s'il y avait des enfants. Franchement, c'est un excellent cadeau de Noël. Une PS5, c'est vraiment un très, très beau cadeau. Ah, vous savez quoi? Je vais vérifier chez Christophe. Voilà, je vais regarder chez Christophe pour voir s'il y avait un très beau cadeau.
C'est alors, beau, il faut le dire.
C'est juste pour vous dire que, et c'est juste pour vous montrer qu'il y a à chaque fois de très très beaux cadeaux dans le sapin de Noël. Si tu avais choisi Christophe, chère Cécilia, tu serais reparti avec une boîte de carottes. Bravo! Tu as bien fait de me choisir. Non, c'était un très beau cadeau également. C'était un très beau cadeau. Tiens, regarde mon cher Christophe. En tout cas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 732-16, dès maintenant au 732-16 pour remporter comme Cécilia un très très beau cadeau. Merci encore d'avoir joué avec nous. Ça
merci
se poursuit jusqu'au 24 décembre. Tout de suite le débat caché sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34 de retour dans les grandes gueules du sport. Sachez que dans moins de 10 minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une grande gueule sur un débat du jour, eh bien vous venez lui dire au 32-16 et n'hésitez pas à jouer au grand jeu de Noël, des cadeaux sublimes sur RMC jusqu'au 24 décembre. Nous sommes là pour vous gâter. Noël au 732-16, Noël au 732-16 dans les différentes éditions. Demain, on accueillera un nouveau gagnant. Allez tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre sur un sujet qui n'est pas d'actualité, mais sur un sujet anniversaire. Un sujet prenant, passionnant. Le guet-apens du jour, le débat caché, c'est ça.
La relance d'ici quelques instants, drapeau vert. Et c'est reparti, des gommes fraîches pour Verstappen, des gommes très usées pour Hamilton. Comment va-t-il pouvoir tenir le dernier tour de cette saison phénoménale? Il y va ici, à l'intérieur, attention, il est passé, Verstappen est passé, il reste à l'intérieur, attention, il défend sa position, roue contre roue, il est toujours à l'intérieur, Verstappen, et on est dans la partie sinueuse, incroyable, le titre qui va se jouer ici, le dernier virage, Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable, il est champion du monde.
Oh les poils, Julien Febro au commentaire sur Canal Plus. Incroyable moment, c'était il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, le 12 décembre 2021, le tour du siècle. À Abu Dhabi, Max Verstappen dépassait Lewis Hamilton dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison pour remporter son premier titre mondial. Une course historique sur fond de scandale, dans une atmosphère dingue, irrespirable. Notre débat anniversaire sur ce Grand Prix, est-ce le plus grand moment de l'histoire de la Formule 1? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Denis Charvet?
Oh non.
Christophe Cessieux?
Non.
Pascal Duprat?
C'est dur. Ah, je vais dire oui, allez, je vais dire oui.
Allez, ouais, tu dis oui. J'ai vu un nom.
Ah, j'ai pas d'argument, mais je vais dire oui quand même.
Ok, ouais. Sur l'émotion, consterné par cette question, Denis Charvet, pourquoi
que, alors c'est marrant parce qu'en ce moment, je vois le documentaire.
Eric Senna.
Je vois la fiction sur Senna, sur Netflix, je me
et
régale.
Le de Prost,
je l'ai fini hier, je regarde Prost, donc. Et bizarrement, je me suis aperçu que j'ai oublié le face-à-face, enfin, la Quand Senna met Prost, prend l'intérieur et que il devient champion du monde, en fait, sur tapis vert, puisque Prost peut plus être champion du monde et Senna est champion du monde. Et c'est extraordinaire. Je me suis remémoré cette course et c'est vrai qu'à l'époque, c'était de rivalité entre Senna et Prost. Ouais. C'était incroyable. Et j'ai pas ressenti ça, par exemple, avec Hamilton et Verstappen. Pas du tout. Alors attention, j'ai eu plein d'émotions il y a 3 ans, comme vous tous, mais à l'époque, pour moi, la Formule 1, c'était magique à l'époque. Je sais pas pourquoi. Je suis peut-être un peu trop nostalgique, oui. Mais de cette époque-là. Mais Senna était quand même un tel personnage, pour moi, que n'est pas Verstappen, que n'est pas même Hamilton. C'est-à-dire que Senna, il a changé la Formule 1 pour moi.
Et au même titre que Prost,
au même Prost titre aussi, que tout, oui, bien sûr,
au même titre que tous les monstres qui ont, comment dire, jalonné les périodes de la Formule 1. Mais cela dit, un championnat du monde qui se joue dans le dernier tour avec ce mano à mano, et comme c'est près de nous, c'est pour ça que j'ai dit oui. Voilà, parce que je me rappelle être devant la télé, mais je suis scotché. Je ne me
souviens plus.
C'est la sénilité. Mais il y a des reportages pour nous permettre. Il l'a bien dit, Denis. Moi aussi, je regarde Senna. Moi aussi, en ce moment, je suis en train de regarder Prost. Mais cela dit, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est ce mano à mano là. Et puis ensuite, la polémique qui s'est nourrie au travers de ce titre attribué à Verstappen. Donc pour moi oui. Voilà, c'est tout.
OK, il y avait tous les ingrédients, il y avait le sportif, il y avait un petit peu de polémique.
Il y avait tout.
Il y avait la rivalité,
borderline, le scandale.
Concrètement, voilà. C'est magnifique, c'était fantastique et ceux qui aiment la Formule 1 ont aimé ce moment évidemment. Sauf que quand on y réfléchit un peu, c'est pas un moment un peu artificiel créé par la FIA?
Si
tu penses que c'est artificiel, si tu penses que ça a été créé juste pour le spectacle, tu peux pas dire que c'est le meilleur moment. Parce qu'effectivement, quand tu le vis, quand tu le regardes comme ça, tu dis, c'est génial, évidemment, un champion du monde qui se joue sur cette course, sur ces derniers tours, etc. C'est fantastique. Sauf qu'au final, tu te dis, les mecs ont tout fait pour ça.
Oui, mais regarde,
tu es en train de me dire.
Tu es naïf.
Tu es en train de me dire qu'ils ont calculé les points sur les autres Grands Prix.
C'est pas ça. C'est que je rappelle juste, et c'est vrai que c'était une saison extraordinaire, parce que le mano à mano a duré vraiment toute la saison. Mais sur cette dernière course, à 5 tours de la fin, il y a la safety car qui arrive après Latifi, après l'accident de Latifi, et qu'il y a ce safety car. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la FIA a été mise sous pression parce que, au final, on pouvait peut-être terminer le Grand Prix comme ça, en étant derrière une voiture, et Lewis Hamilton était en tête. Et finalement, ils ont voulu créer quelque chose et se dire non, on peut pas terminer comme ça, donc on va faire revenir les voitures et on va s'élancer pour un dernier tour. Évidemment, Max Verstappen a changé ses pneus, ça change la fin de l'histoire. Alors que, sportivement, Lewis Hamilton devait le gagner. Donc je comprends le côté artificiel. Que n'aurait-on dit si ça s'était arrêté
derrière
la voiture de course, quoi.
Mais j'y sais, l'histoire se répète, puisque à l'époque, vous vous souvenez que Senna avait été disqualifié, alors qu'il fait un Grand Prix incroyable sous la pluie, remonte tout le monde, et il gagne le Grand Prix, et on dit, il est passé par une chicane, il a redémarré, en fait, quand il se...
Ah, mais bien sûr! Et donc, puis à l'époque, on disait que Balestre
avait favorisé. Et en fait, il n'est pas champion du monde parce qu'il le disqualifie. Enfin, c'était déjà des petites magouilles, quand même.
Bien sûr, c'est vrai. Ça a toujours été la magouille.
Je suis assez étonné dans ce débat, parce que quand on parle de moments historiques de la Formule 1, le plus grand moment, il n'est pas forcément que positif. Je suis étonné, que personne ne me dise l'accident de Senna. Non, c'est ça le plus grand moment.
Ouais, t'as envie de le chasser de ta mémoire.
C'est impossible.
Le moment
l'accident de Romain Grosjean.
Moi, je l'ai vu en direct. L'accident de Grosjean aussi, quand il prend feu. Mais l'accident de Senna, je l'ai vu en direct. Je regardais le Grand Prix. C'était un dimanche après-midi. C'était un 1er mai. J'étais devant ma télé.
Et tout le monde sait où on était.
Tout le monde se souvient de l'endroit où il était au moment où Senna.
C'est pour ça que je vous mets ça dans la balance.
Et tout le monde est resté devant son écran de télévision pendant des heures qu'on évacue de la piste. Et tout le monde était à l'écoute de la radio pour savoir où il en était, parce que les nouvelles étaient terribles. C'est sans doute le moment le plus marquant de l'histoire.
Oui, mais c'est pas une, c'est pas une c'est... fait de course. Non. Si tu veux, c'est alors, pas une c'est... Après, la compétition.
Des... Fait de sport.
Plus heureux. Eh oui. Il y en a, rappelez-vous aussi de ce Grand Prix. Alors je crois que c'est 76, l'accident de Niki Lauda.
Niki Lauda, oui.
Sa voiture qui prend feu, le visage qui est quasiment entièrement brûlé et qui 40 jours plus tard revient en course pour disputer le dernier Grand Prix de la saison parce qu'il a encore une possibilité de décrocher le titre.
Christophe, c'est ça ma question.
Il a le visage, les morceaux de visage qui s'accroche à la combinaison anti-feu. Le mec, il a un courage, mais il a des coronets, mais c'est un truc énorme. Et ça, c'est des moments dingues.
Oui, mais il n'y a pas plus fort qu'une rivalité.
Autre moment,
il me semble.
La découverte du jeune Ayrton Senna, Grand Prix de Monaco, je ne sais plus quelle année. Il est sur une, Tolman, voiture blanche. Il révèle ses qualités de pilote extraordinaire. Il remonte tout le monde. Il est parti de fond de ligne, il remonte tout le monde. Il est derrière Prost et à ce moment-là, on décide d'arrêter la course et de donner la victoire. Course, ouais. Mais c'est des moments magiques, ça. C'est des moments magiques. Voilà. Et là, il y a eu un peu de bagouille parce que il aurait pas fallu arrêter le Grand Prix.
Non, mais à un moment donné, quand on parle de Formule 1, et c'est pour ça que je vous mets ça dans la balance, il y a un moment sportif, litigieux, ok, mais sportif. Et puis, il y a aussi les drames de la Formule 1 qui nous ont marqués et qui nous marqueront à jamais.
Complètement pour un néophyte. C'est Ayrton Senna, c'est le décès d'Ayrton Senna, c'est son accident.
Oui,
évidemment,
moi,
spécialiste que vous de Formule 1, le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à Formule 1, c'est Ayrton Senna, évidemment, parce que ça a marqué une génération, ça a marqué le sport automobile, et c'était tellement une icône
C'est le seul pilote automobile auquel on consacre une série télévisée avec un film aussi, un film documentaire avec Prost, mais c'est oui parce que les deux sont unis à jamais quoi.
Mais est-ce que dans 30 ans, on va se souvenir de ce dernier tour là?
Peut-être.
Entre Hamilton. Mais c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on peut juger.
Mais c'est trop frais. Oui, c'est trop frais.
Même titre qu'on se souvient des duels entre Prost et Senna.
Oui, il y a des chances. Il y a des chances.
On s'en souviendra,
oui.
Bien sûr. Forcément.
Et on occultera le fait que tout a été improvisé, que c'était artificiel. Par
rappelez-vous cette année-là, les audiences que faisait la Formule 1. Tout le monde ne parlait que de F1 en fin de saison. C'était incroyable. Le duel entre les deux. On a retrouvé un tout petit peu ça par moment cette saison. Mais il faudrait qu'il y ait des rivalités et un suspense.
Et puis il y a eu des accrochages entre les deux sur différents grands prix durant la saison. Et c'est ça qui a nourrit aussi cette rivalité pour arriver à cet apogée. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ce matin dans les grandes gueules du sport. Nous avons fêté cette semaine les 3 ans de ce tour du siècle
bon débat caché,
à Abu Dhabi. Sachez que si vous aimez évidemment l'histoire d'Ayrton Senna, il y a un panthéon prévu sur RMC.
L'histoire du sport aussi, non? C'est pas mal. Hein,
c'est sur RMC Sport. C'est un podcast présenté par Nicolas Jamin pour tout savoir sur Ayrton Senna. Panthéon sur rmcsport.fr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. C'est à vous de jouer, les auditeurs.
Retrouver. C'était mieux avant, je l'ai consacré à...
Oui, bon, sans
mon cher. J'ai bien compris qu'on va parler des autres que de moi.
Non, mais
merci,
toi,
c'est pas ça, mais il y a quelque chose de tout chaud, de tout frais qui vient d'arriver en podcast. Donc voilà, je le présente aux auditeurs. C'est tout chaud, c'est tout frais, c'est tout l'inverse de toi. Voilà.
Merci,
les auditeurs dans quelques instants.
Je me suis cassé pendant des mois pour lui faire des bons trucs. Et là, merci, Jean-Christophe.
C'est là.
Le 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h48 de retour dans les grandes gueules du sport, la dernière ligne droite avec Pascal Duprat, Fred Weiss, Denis Charvet, Christophe Cessu. À partir de midi, les paris RMC, toute la Dream Team présente dans le studio pour vous parler de Marseille-Lille. C'est à 17h, on vous donnera toutes les meilleures cotes. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport. Et vous?
Vous n'êtes pas d'accord avec une ou plusieurs GG, vous venez nous le dire au 32-16. Pierre nous appelle. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour à vous tous.
Bonjour
Pierre, merci d'être avec nous. Pierre, tu veux t'attaquer à qui ce matin?
À qui veut concernant l'organisation de la Coupe du Monde.
Ok, on t'écoute. Ça t'a fâché ce matin ce débat?
Non, en fait, je suis très sportif et je suis beaucoup l'actualité classique et politique. Mais il y a des choses contradictoires qui m'énerve au plus haut point. Je conçois qu'on soit obligé de faire des Jeux Olympiques, que l'on fasse une Coupe du Monde, qu'il y ait des championnats du monde de différentes disciplines, je le conçois complètement. Faire une Coupe du Monde sur 3 continents différents, alors que, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, tout est politique, y compris en sport, alors que les mêmes politiques de ces continents se rassemblent pour nous prêcher des mesures restrictives concernant l'écologie et concernant le climat, ça ne peut qu'être que contradictoire et ça ne peut que vous faire râler. Je prenais pour exemple ce matin, je disais, bon, on nous empêche, nous particuliers, de faire brûler 3 brindilles dans un jardin parce qu'on va détruire la planète, et en contrepartie, on va prendre des avions, des bateaux qui sont vraiment énergivores et qui polluent au plus haut point pour se déplacer sur 3 continents alors que l'on pourrait le faire dans un seul pays sur un continent, comme ça s'est toujours pratiqué jusqu'à aujourd'hui.
On parlait, voilà, Pierre, évidemment, des attributions de la Coupe du Monde 2030 et 2034. Et 2030, ce sera donc effectivement sur 3 continents, parce qu'il y aura les 3 premiers matchs en Amérique du Sud. Et puis ensuite, ça va se disputer dans 3 pays.
Pascal peut répondre sur le sujet, hein, lui, qui
Maroc,
s'en fiche des bilans carbone, en fait.
Espagne et Portugal.
Qu'est-ce que t'en sais que je m'en fiche, Christophe, des bilans carbone? Tu sais pas si je m'en fiche, en fait. Là, encore une fois, tu réponds pour moi.
Mais
cela dit, ce que dit l'auditeur à l'instant, là, c'est toute la contradiction entre ce qui est autorisé pour certains et ce qui est, comment dire, non autorisé pour d'autres. Et bien souvent, c'est le citoyen qui trinque. Vous voulez qu'on parle de politique ou vous voulez qu'on parle de sport?
Non, ça va.
Voilà. Politique, donc, voilà, c'est tout. Ce que vous dites, c'est désarmant de sincérité, c'est désarmant de vérité. Mais je crois pas que la France ne s'enorgueillit pas d'avoir organisé les Jeux Olympiques sur notre sol et que quelque part, nos dirigeants, ils sont contre-foot du bilan carbone de l'histoire. Ça les empêche pas le lendemain de nous dire, comme vous l'avez très bien dit, attention, faut pas brûler tes déchets dans ton jardin.
Mais je pense que le bilan carbone des Jeux Olympiques de Paris 2024, sans, j'ai pas les chiffres, mais sera certainement meilleur que le bilan carbone du monde de foot en Arabie Saoudite.
Oui, mais même, ça, oui. Non, mais ça, encore une fois, Christophe. Comme t'as une sainte horreur du foot, c'est sûr que t'allais dire ça. Parce que t'as pas les chiffres.
Mais en Arabie Saoudite, peut-être pas, c'est le même lieu.
J'ai pas du tout une sainte horreur. J'ai une sainte horreur de ce que le foot est en train de devenir, Pascal. C'est surtout ça.
Oui.
J'ai pas du tout une sainte horreur du foot.
C'était les jeux les plus écolos de l'histoire à Paris. Alors, c'est pas pour dire qu'on fait mieux que les autres, c'est juste pour dire, et Pierre l'a bien précisé, que voilà, une Coupe du Monde sur un mois ou un peu plus d'un mois sur 3 continents différents, forcément ça va causer quelques problèmes pour l'écologie, et c'est important aussi d'en parler dans cette émission.
C'est pareil,
merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous au 32-16.
De Coupe du Monde ou des championnats d'Asie de ski en Arabie Saoudite sous un dôme, mais ça c'est une ineptie totale. Mais c'est la même chose, évidemment, les dirigeants des fédérations internationales vont chercher l'argent où il est, et il est en Arabie Saoudite.
Afid nous appelle au 32-16. Bonjour Afid.
Oui, alors j'enlève le haut-parleur et je vous dis oui, bonjour à toute l'équipe.
Salut, merci d'être avec nous Afid, tu veux parler à qui ce matin?
Je voulais rebondir là sur ce qui s'était dit, mais je voulais surtout parler, en fait, parce que j'ai une réflexion diamétralement opposée de celle de Christophe Cessieux. Au sujet de l'affaire Jégou-Oradou,
je rappelle juste qu'ils ont été innocentés, en tout cas il y a un non-lieu qui a été prononcé par la justice argentine cette semaine, et que désormais, c'est ce que nous dit le président de la Fédération Française de Rugby, Florian Grill, ils sont sélectionnables, et notre question c'était, est-ce que vous avez envie de les revoir rapidement en bleu? Vas-y Afid.
Oui, écoutez, moi quand j'ai appris les faits, j'étais le premier, peut-être pas le premier, mais je me suis dit, si les faits sont vérifiés, mais qu'ils pourrissent en prison, mais qu'ils pourrissent et qu'ils y restent longtemps, très longtemps. Là, ils ont été innocentés, un non-lieu. Et la justice, argentine, c'est pas une décision à l'emporte-pièce, comme les jugements que vous pouvez proférer, vous, moi, tout le monde, quoi. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Ils sont innocentés, ça veut dire qu'ils sont innocents. Donc je pense que ces gens-là, ces gamins, ils ont assez souffert, et ils n'ont pas besoin qu'on leur mette encore la tête sous l'eau, comme l'a dit Christophe Cessieux tout à l'heure, en évoquant encore un éventuel appel, je ne sais pas trop quoi. Moi, je dirais à la limite...
Fred.
Oui, donc, et je suis un peu surpris, c'est un euphémisme, surpris, dépité, désespéré presque, de constater, vous savez, que la plupart des gens, à travers le sondage, vous savez que vous l'avez parlé, rejoignent les propos de M. Cessieux. Et là, je me dis que le tribunal populaire et encore plus violent, plus impitoyable que le tribunal.
Non, non, mais attendez, attendez, Avid, je ne les ai pas, je leur ai pas mis la tête sur le bio, là. Vous êtes en train de me faire dire des choses que j'ai pas dit. J'ai juste dit que
Écoutez, je ne peux pas les accepter, quoi. Il faut les laisser dire. Ils ont été innocentés.
Va pas écouter les émissions de débat si tu ne peux pas accepter que les gens ne soient pas du même avis que vous. Il ne faut pas écouter les émissions de débat. Il faut aller regarder Babar à la télé.
Je reprends la main. Les copains, un peu de respect pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent.
Mais qu'est-ce que tu dis ?
Il a le droit de le dire.
Moi, j'ai le droit de lui dire aussi ce que je dis, non ?
Mais non, mais il a le droit de dire ça et il a le droit de défendre une position que, à partir du moment où ils sont innocentés, ils sont lavés de tout soupçon, il faut les revoir en équipe de France.
Je n'ai pas dit qu'il fallait leur mettre la tête sur le bio. J'ai juste dit que je trouvais que c'était un peu tôt de leur redonner le maillot bleu.
Parce que
je suis désolé, même s'il
n'y
a pas eu de.
Je suis d'accord avec Afid.
Même si. Oh là là, tu ne peux pas t'exprimer avec ces abrutis-là.
Christophe, tu fais exactement la même chose. Tu leur fais exactement la même chose. Bon ben voilà, il quitte le studio. Merci à Fid d'avoir été avec nous.
Grincheux est parti.
Merci d'avoir été avec nous.
Tu te fais attaquer, tu ne peux pas te parler encore.
Et vous, oui, allô.
Vas-y,
il y a Fid qui te parle encore.
Fid, salut Fid.
Non, je veux dire, ok, je ne peux pas, ça paraît un peu, je ne veux pas convaincre personne. Ça fait très longtemps que j'ai compris qu'on ne pouvait pas convaincre autrui avec ses propres, avec ses arguments à soi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des millions de gens qui pensent une chose qu'ils ont forcément raison, quoi.
Exact. Et puis, t'as raison de venir t'exprimer dans les grandes gueules du sport. C'est l'essence de notre émission. C'est-à-dire que tu viens nous dire ce que tu en penses et nous, on prend ton avis en compte, évidemment, mon cher Afid. Merci d'avoir été avec nous au 32-16. Merci beaucoup, les GG. On se retrouve demain à partir de 9h pour les grandes gueules du sport. Soyez bien présents avec nous. Il y aura de nouveau pas mal de bons débats. Je vous le promets. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC avec toute la Dream Team. On parlera notamment de Marseille face à Lille. À tout de suite sur RMC.